Vous écoutez On lit pour vous.
Une industrie de la construction plus inclusive. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse. D'ici 10 ans, le Québec souhaite hausser de façon importante la place des Premières Nations dans l'industrie de la construction, où elles sont nettement sous-représentées tant dans les différents corps de métier que du côté entrepreneurial, où elles aspirent à une plus grande implication et à une plus valable contribution à l'économie québécoise. Le 5e cercle économique régional des peuples autochtones et du Québec, qui s'est réuni à la mi-novembre 2024 à Trois-Rivières, a été plutôt prolifique. La Commission de la construction du Québec, CCQ, a profité de cette rencontre pour présenter le nouveau plan d'action de l'industrie de la construction pour l'inclusion des Premières Nations et des Inuits. L'organisme qui chapeaute les relations de travail, la formation et la gestion de la main-d'œuvre de l'industrie de la construction a mis 5 ans à développer de concert avec les associations syndicales, patronales et les instances gouvernementales une série de mesures qui vont permettre une meilleure inclusion des Premières Nations et des Inuits. Le calcul est simple. La population autochtone, qui œuvre actuellement sur les chantiers de construction, représente seulement 0,38% de l'ensemble de la main-d'œuvre qui est active dans ce secteur d'activité au Québec, alors que la population autochtone représente 1,3% de la population totale du Québec. Audrey Murray, PDG de la CCQ, nous dit « Ce que l'on vise, c'est que les populations autochtones représentent, d'ici 10 ans, 1% de la main-d'œuvre totale de l'industrie de la construction au Québec. On parle de plus de 2000 travailleurs issus des Premières Nations et des Inuits, contre seulement 753 Autochtones qui travaillent sur les chantiers aujourd'hui. Cette participation accrue des Premières Nations à l'industrie de la construction est demandée depuis des années par les différentes communautés qui reprochaient à la CCQ et à l'industrie des règles trop strictes et limitatives qui empêchaient une plus juste contribution de leur part à cette activité économique importante. C'est un pas de plus vers une plus grande autodétermination que l'on souhaite pour nos communautés. Ça fait des années qu'on demande au système de s'adapter à notre réalité, et non pas l'inverse, me précise Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Un plan en 24 mesures. Le plan d'action a élaboré 24 mesures, dont certaines ont été déjà adoptées le printemps dernier, avec l'adoption de la loi 9, alors que d'autres vont entrer en vigueur le 30 novembre 2024 et que certaines autres vont s'étaler au cours des 5 prochaines années. À l'heure où l'industrie de la construction doit encore subir les séquelles de la pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs corps de métier, l'inclusion de nouveaux travailleurs autochtones va être facilitée grâce à une formation adaptée. Par exemple, on va instaurer, à titre expérimental, des examens pratiques pour les jeunes Inuits qui veulent faire une formation dans un métier de la construction parce qu'ils n'ont pas le cursus scolaire leur permettant de répondre à un examen théorique et que c'est dans leur culture que d'apprendre en imitant. Cette procédure pourra éventuellement être élargie à d'autres communautés autochtones pour faciliter l'arrivée sur le marché d'un nombre beaucoup plus important de jeunes recrues qui n'ont pas nécessairement le bagage scolaire réglementaire. Dans les prochains mois, on va aussi permettre aux entreprises de construction d'embaucher le double d'apprentis autochtones par corps de métier que le ratio actuel qui permet l'embauche d'un apprenti pour un compagnon parce qu'il leur est plus difficile de passer au statut de compagnon. Autre mesure qui facilitera la mobilité de la main-d'œuvre et qui va s'appliquer, celle-là, dès le 30 novembre. On n'exigera plus d'un apprenti autochtone qu'il cumule 750 heures de travail avant de pouvoir aller travailler dans une autre région que la sienne. On va ramener cette limite à 450 heures de façon à leur donner plus de possibilités d'être embauchés. Une autre mesure d'importance, qui ne sera pas mise en application immédiatement, mais qui facilitera la vie de plusieurs des communautés CRI, c'est l'élargissement de la zone Bay James, dont les limites déborderont maintenant dans la région Eyu-Istchi, Bay James, soit en Abitibi et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la grande chef du Grand Conseil des CRI, Mandy Gull-Masty, cette harmonisation va stabiliser les activités des entreprises de construction CRI qui sont souvent à cheval entre les trois régions. Madame Gull-Masty est très enthousiaste face au plan d'action qui vient d'être dévoilé. Les Premières Nations et les Inuits vont être pleinement capables d'atteindre les objectifs de 2000 travailleurs de la construction d'ici 10 ans, assure-t-elle. C'est un plan d'action pour l'inclusion tout à fait réaliste, assure-t-elle. À nous seuls, les 9 nations CRI du Québec, on totalise 20 000 personnes et la moitié de notre population est âgée de moins de 18 ans. On va avoir la main-d'œuvre disponible pour réaliser notre développement futur. La Commission de la construction du Québec et ses partenaires du secteur de la construction viennent de démontrer qu'il est possible de modifier un cadre réglementaire pour permettre une plus grande inclusion et surtout en profiter. La prochaine étape va être de faire la même chose avec les nouveaux arrivants pour en faire des contributeurs dans un secteur qui en a encore bien besoin. C'était une industrie de la construction plus inclusive. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse.
Les mystérieuses marées d'or. Un texte de Renaud Manouguera-Gagné, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science. Un chercheur de l'Université McGill a trouvé un lien entre l'eau de mer et la formation de dépôts importants d'or. Une découverte qui pourrait permettre de trouver des trésors sous-marins. Au Moyen Âge, les alchimistes se sont longtemps acharnés, sans succès, à transformer le plomb en or. De nos jours, les chimistes savent qu'une telle entreprise est futile, mais ça ne les empêche pas de s'intéresser aux secrets de ce métal précieux et en particulier à la formation des gisements d'or. L'or se trouve généralement au sein de veines ou de filons qui se forment dans les fissures d'une roche-mère. Jusqu'ici, l'idée était que de l'or en suspension dans l'eau s'était infiltré à travers ces failles et s'y est lentement déposé sur une échelle de plusieurs millions d'années. Ce qui nous a toujours échappé, c'est ce qui distingue les gisements qui ne contiennent que quelques parties par million d'or par tonne de roche de ceux qui en contiennent des dizaines de milliers ou même plusieurs grammes par tonne, explique Dominique Guena, géochimiste et professeur en sciences de la Terre à l'Université du Québec à Chicoutimi. Les géochimistes ont longtemps pensé que l'or circulait dans l'eau sous forme dissoute. Mais comme l'or se dissout plutôt mal dans l'eau, il est difficile d'expliquer la formation des filons concentrés. Il aurait fallu que des millions de litres circulent dans la roche sur des périodes beaucoup trop longues. Pour plusieurs scientifiques, il devrait donc y avoir un autre processus à l'origine des gisements abondants. Ce processus, Duncan MacLeish, étudiant postdoctoral au département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université McGill, pourrait l'avoir trouvé à Brucejack, une mine d'or des montagnes rocheuses en Colombie-Britannique. Il le décrit dans une étude publiée en mai 2024 dans PNAS. En analysant les isotopes dans la roche autour du minerai d'or, nous pouvons déterminer dans quelles conditions il s'est formé, indique Duncan MacLeish. Ce qu'on a trouvé autour de ces veines prolifiques, c'est la signature de l'eau de mer. Les richesses de la mer. Pour comprendre le lien entre l'eau de mer et la formation de l'or, il faut d'abord remonter à une autre étude faite en 2021. Duncan MacLeish et ses collaborateurs avaient alors observé, à l'aide d'un microscope électronique, le comportement des particules d'or dans de fines tranches de roche. On a découvert que l'or circule dans l'eau sous la forme d'un colloïde plutôt que sous forme dissoute, souligne le chercheur. La meilleure image pour représenter un colloïde, c'est du lait, une solution aqueuse contenant des nanoparticules de gras en suspension. Ces particules de gras sont chargées négativement et se repoussent les unes les autres. Avec le temps, les charges se dissipent et les particules s'agglutinent. On dit alors que le lait est caillé. Ici, ce sont des nanoparticules d'or qui sont en suspension, reprend Duncan MacLeish. Et, comme pour le lait qui caille, il arrive qu'elles s'agglutinent, ce qui leur permet de se déposer en de fortes concentrations dans certaines veines. Il manquait toutefois l'élément déclenchant cette agglutination. Et c'est ici que l'eau de mer entre en jeu. Dans notre nouvelle étude, nous avons découvert que les ions sodium qui forment le sel de mer avec les ions chlorure étaient la clé pour amorcer cette agglutination. Quand l'eau de mer entre en contact avec le fluide chargé en nanoparticules d'or, le sodium déclenche le processus et on obtient une forte déposition d'or. La découverte a un immense potentiel économique. Si les veines avec beaucoup de valeur se forment au contact de l'eau de mer, cela permet d'affiner les recherches de prospection en ciblant des sites qui ont été en contact avec l'eau de mer dans le passé ou même des sites sous-marins. Cela pourrait du même coup éviter des dommages environnementaux associés à l'exploration ou l'exploitation de sites peu rentables. Dominique Jenna, qui n'a pas contribué à ces travaux, précise que, bien que la découverte soit d'un grand intérêt, elle ne concerne pas l'ensemble des sites aurifères. Le type de minéralisation décrite dans l'étude n'en est qu'un parmi plusieurs, explique le chercheur. Si on pense à Val-d'Or, au Québec, on est en plein bouclier canadien et l'or qu'on y trouve est d'origine magmatique. Ce mécanisme, bien que nouvellement décrypté, ne concerne donc que des sites où la tectonique a fait remonter le plancher océanique pour former des chaînes de montagnes récentes comme dans l'Ouest canadien. Un soulèvement qui a permis de rendre accessibles des filons entrés préalablement en contact avec l'eau de mer. Les montagnes de la côte ouest ont déjà été le théâtre de la légendaire ruée vers l'or de la fin du 19e siècle. 100 ans plus tard, la science pourrait bien contribuer à dénicher les trésors qui y sont toujours enfouis. C'était « Les mystérieuses marées d'or », un texte de Renaud Manouguera-Gagné, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science.
Sensibilisation de rue, Yellowknife Street Outreach en péril, un texte de Cristiano Pereira, paru le 1er novembre 2024 dans L'Aquilon. Lors de la réunion du conseil municipal de Yellowknife le 29 octobre,
Scott Robertson, infirmier et consultant de la santé, a présenté les conclusions d'une évaluation récente du programme de sensibilisation de rue Yellowknife Street Outreach. Ce service essentiel, géré par la Société des femmes de Yellowknife, fournit des transports sûrs et un soutien crucial aux personnes en situation d'itinérance dans la ville. La présentation détaillée de Robertson a mis en évidence l'efficacité du programme, la demande croissante et le besoin urgent de financement durable. La Société des femmes de Yellowknife, qui gère actuellement le programme de sensibilisation, fait beaucoup avec peu, a déclaré Robertson, révélant que le programme fonctionne actuellement avec un déficit de 50 000 $. Il a souligné la dépendance du programme au financement à court terme, ce qui freine sa planification à long terme et met en péril sa capacité à répondre aux besoins croissants des populations vulnérables de Yellowknife. Pour continuer, il faut un financement adéquat et durable, a-t-il ajouté. Une partie clé de la présentation de Robertson a porté sur la visibilité croissante de l'itinérance à Yellowknife. En tant que centre de ressources des territoires du Nord-Ouest, la ville connaît une augmentation du nombre de personnes qui migrent depuis les communautés plus petites. Yellowknife est le centre de ressources. Les gens viennent ici parce qu'ils savent que des ressources sont disponibles, a-t-il expliqué, soulignant que le problème de l'itinérance dépasse les limites de la ville et concerne l'ensemble du territoire. Depuis sa création en 2017, le programme de sensibilisation a fourni des milliers de trajets sûrs aux personnes nécessitant de l'aide. Robertson a souligné l'importance de ce service, en particulier dans la réduction de la pression sur les services d'urgence et la GRC. Lorsque je travaillais aux urgences de l'ancien hôpital Stanton, ce service n'existait pas. Et nous devions appeler la GRC chaque jour pour prendre en charge des personnes qui n'avaient pas besoin d'être avec nous, mais n'avaient nulle part où aller, a-t-il partagé. Les trajets sûrs du programme de sensibilisation ont considérablement allégé la charge de travail des soins d'urgence et des forces de l'ordre, offrant une alternative précieuse aux personnes nécessitant de l'assistance, sans relever des soins d'urgence ou de la détention. Un sondage réalisé dans le cadre de l'évaluation a recueilli plus de 680 réponses validées, indiquant un soutien communautaire large en faveur du programme. Robertson a souligné le rôle essentiel du programme de sensibilisation pour établir une relation de confiance au sein de la communauté de rue, un élément crucial pour fournir des services efficaces. Les clients font vraiment confiance au service et c'est important, a-t-il précisé, en notant que le programme relie les clients à des services auxquels ils n'auraient peut-être pas accès autrement. L'évaluation comprenait une série de recommandations visant à améliorer l'efficacité et la portée du programme de sensibilisation. L'équipe de Robertson a proposé une approche en deux phases. En commençant par renforcer le service de transport principal et en étendant ensuite les efforts de sensibilisation, de gestion de cas et d'engagement communautaire. Un transport sûr et fiable et une meilleure sensibilisation sont essentiels pour répondre aux besoins de cette population, a affirmé Robertson, soulignant l'importance d'adapter les horaires de fonctionnement pour mieux correspondre à la disponibilité des refuges et résoudre les lacunes en matière de coordination des services. Le financement reste le plus grand défi pour l'avenir du programme. Robertson a souligné que la dépendance au financement mensuel laisse le programme vulnérable et limite son potentiel de croissance. Gérer un programme avec un financement incertain est difficile, en particulier pour une agence à but non lucratif, a-t-il déclaré, plaidant pour des engagements financiers pluriannuels de la part des municipalités, des territoires et du gouvernement fédéral. Une autre recommandation clé de l'équipe de Robertson était d'assurer une communication claire et une harmonisation des politiques entre toutes les agences impliquées dans le soutien aux populations itinérantes. Il a expliqué que de nombreuses agences étaient incertaines quant à la portée du programme, ce qui entraînait des inefficacités et des lacunes dans le service. Il est nécessaire d'assurer la cohérence et la clarté de ce service sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, a souligné Robertson, appelant à des politiques qui définissent les limites du service et les permissions pour les travailleurs de rue. Le budget proposé dans le rapport prévoit un coût initial d'environ 850 000 $ pour la première année, afin de couvrir les frais d'implantation avec des dépenses qui devraient légèrement diminuer au cours des années suivantes à mesure que le programme se stabilise. Cependant, Robertson a averti que la réduction des effectifs ou des heures de sensibilisation compromettrait l'efficacité du programme. Réduire les services signifie diminuer la capacité du programme à répondre aux heures de fort besoin, ce qui influe directement sur la population la plus vulnérable de la ville, a-t-il conclu. Les membres du conseil municipal de Yellowknife ont exprimé leur soutien aux conclusions du rapport et ont reconnu l'importance d'un financement durable pour assurer le succès du programme. La discussion a souligné la nécessité d'une approche collaborative entre les organismes gouvernementaux et communautaires pour aborder l'itinérance de manière globale. Comme l'a souligné Robertson, ce n'est qu'un élément du puzzle. La sensibilisation seule ne résout pas l'itinérance, mais elle fait partie intégrante d'une réponse coordonnée. C'était Sensibilisation de rue, Yellowknife Street Outreach en péril, un texte de Cristiano Pereira, paru le 1er novembre 2024 dans l'Aquilon.
Sept mythes à chasser de la chambre à coucher, un texte commandité, paru le 11 novembre 2024 dans la presse. Ils sont tenaces et répandus et se faufilent jusque dans votre intimité. Certains mythes sur la sexualité sont encore bien ancrés dans les croyances populaires. En voici sept à balayer du revers de la main. Mythe numéro 1. Le sexe est une pulsion. Le sexe est-il une pulsion, au même titre que la faim et la soif? Pas du tout. Personne ne peut mourir par manque de sexe. Ce n'est pas non plus un besoin fondamental. L'acte sexuel est plutôt considéré comme une façon parmi tant d'autres de combler un besoin psychologique, notamment celui de proximité. Mythe numéro 2. Les hommes ont une libido plus forte que les femmes. Cette pensée simpliste selon laquelle les hommes éprouveraient plus de désirs sexuels que les femmes n'est qu'une construction sociale qui cause du tort inutile aux deux sexes. D'un côté, cela amène certains hommes qui éprouvent peu ou pas de désirs spontanés à ressentir du stress et de la honte, voire à vivre de l'anxiété de performance. De l'autre, ce mythe tenace peut faire croire aux femmes ne vivant pas leur sexualité selon ce faux standard qu'elles sont anormales. Mythe numéro 3. Si une femme a besoin de lubrifiant, c'est qu'elle n'est pas assez excitée. S'il est vrai que la lubrification naturelle peut augmenter lorsqu'une femme est excitée, une foule de facteurs peuvent affecter la capacité du corps à produire sa propre lubrification. Il peut s'agir de changements hormonaux, de la ménopause, de certains médicaments, de stress et même de déshydratation. Une femme peut donc très bien ressentir de l'excitation tout en manquant naturellement de lubrification. Il en va de même pour les hommes. Ce n'est pas parce qu'un pénis n'est pas en érection qu'il y a forcément absence de désir. Et le contraire est aussi vrai. Mythe numéro 4. On brûle beaucoup de calories pendant une relation sexuelle. des chercheurs de l'UQAM et de l'Université de Montréal se sont penchés sur cette question. Le résultat? Les hommes et les femmes brûlent près de 3 fois moins de calories en ayant une relation sexuelle qu'en pratiquant un sport comme la course à pied. L'étude a révélé que lors d'un rapport sexuel d'environ 25 minutes, les hommes brûlent en moyenne 101 calories. Les femmes, quant à elles, en dépensent 69. À titre de comparaison, une séance de jogging de 30 minutes permet en moyenne de brûler 276 calories chez les hommes et 213 calories chez les femmes. Mythe numéro 5. Le sexe est à la base d'une relation de couple saine. Ce n'est pas le désir, ni la passion, ni le fait de maintenir l'étincelle qui importe dans une relation, mais plutôt le plaisir. En effet, les études révèlent qu'une sexualité épanouie repose davantage sur le plaisir partagé entre les partenaires que sur le désir ou sur la fréquence des ébats. Dans son livre « Réjouissez-vous », la sexologue et chercheuse Émilie Nagoski fait valoir qu'en créant, citation, « un contexte qui permet à votre cerveau d'interpréter le monde comme un endroit sûr, amusant, sexy et agréable, vous créerez du sexe qui vaut la peine d'être désiré. » Fin de citation. Mythe numéro 6. L'absence de désir spontané pour son partenaire constitue un problème. En réalité, on distingue 2 types de désirs. Alors que certaines personnes tendent plus à ressentir du désir de façon spontanée, d'autres ont bien souvent besoin de stimuli, comme le toucher, pour éveiller leur désir. Ce désir dit « réactif » n'est pas moins souhaitable que le désir spontané, dans la mesure où il y a consentement. Selon Émilie Nagoski, citation, il faut être non seulement conscient du fonctionnement de la sexualité de chacun, mais aussi accepter et accueillir ces sexualités telles qu'elles sont. Ce n'est pas le fonctionnement de votre sexualité qui importe, mais ce que vous ressentez par rapport à votre sexualité. Fin de citation. Mythe numéro 7. Les personnes trans sont toutes homosexuelles. La transidentité n'est pas une question de sexualité, mais bien d'identité. Au même titre que les personnes cisgenres, les personnes trans présentent toutes les déclinaisons d'orientation sexuelle possibles. Comme n'importe qui, elles peuvent s'identifier comme étant hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles ou asexuelles. C'était « 7 mythes à chasser de la chambre à coucher ». Un texte commandité paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.